Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives et la région Languedoc-Roussillon.
Après la retirada, beaucoup des exilés, entre les plus politisés, fuient l'Espagne et décident de rester en France. En 1939-40, beaucoup d'entre eux s'engagent dans les bataillons étrangers de l'armée française et par la suite entrent dans la résistance. Mais certains sont faits prisonniers et envoyés dans des camps de travail, puis très souvent ensuite dans des camps de concentration, en Allemagne et en Autriche. Ceux qui survivront resteront en France, où ils continueront le combat contre le régime franquiste et témoigneront de l'horreur des camps de concentration.
L'extermination devait être totale, surtout pour nous espagnols, mais même pour les autres. Parce que la première chose quand ils disaient laisser s'en aller à Matassène, à la porte des gens, tu vois, tu ne rentres pas ici, mais tu sortiras par la cheminée du crématoire. Ne pense pas à autre chose. Ils étaient tellement certains de ça, un peu de ça, parce que ce qui a eu ça, c'est qu'ils n'ont jamais cru penser, on est convaincus. D'ailleurs, on est convaincus parce qu'après, il y a eu les procès de certains SS, et ils étaient tous stupéfaits de voir que quatre couillons espagnols, ils étaient capables, chacun là où il était, mais capable de faire face à ça.
On savait que la base de la mort lente par la fin, le coup qu'on recevait, parce que ce qu'il fallait tâcher de faire, c'est éviter le coup le plus possible, ne pas se laisser tomber par terre.
Nous étions déjà, nous étions hors du monde. C'est ce qu'on appelait le monde de la société qui existait, qui avait imposé les SS. Et nous étions en dehors de tout ça. Nous étions dans un endroit que nous sommes emmagasinés là-dedans pour nous exterminer un jour. Eh bien, en pensant à ça, il faut que ta conduite suive les moyens appropriés pour faire face. Et ça, c'était dur, mais il fallait être conscient de ce que nous représentions.
Avec ça, on va vers Matosène, 6 jours de circulation. Mais on ne pouvait pas y aller directement, puisqu'il y avait le transport militaire de troupes qui allaient vers l'Union soviétique, là tout bazar. D'abord la Pologne et après l'Union soviétique. Là. Alors il fallait attendre qu'ils passent ces transports, et nous on reprenait la route. Mais sans boire, sans manger. Et on faisait nos besoins dans un petit tonneau d'une cinquantaine de litres. On était une centaine dedans, cansats parce que quand il y avait un tournant, rompt par terre. Il y en avait qui soutenaient un peu. Dès qu'on lâchait, wow! Et alors, ça sentait mauvais. Heureusement que les lattes, c'était un peu mal jointé. Le liquide s'en allait, mais le restant restait là. Alors voilà, 6 jours, supporter ça. Et en arrivant à près de Matosén, là, on nous a descendu, à nous, rien que nous, pour nous faire passer une bonne raclée. Mon maman m'a fait sauter 12 dents, je vous dire. C'est vrai que pour ceux qui avaient à manger après, enfin, que ça.
Et là, Nuremberg, alors là, Nuremberg, je ne viens pas parler. Hein. Non, parce que c'est... Et à Nuremberg, c'est plus rien, parce que j'ai suivi un traitement et j'étais optimiste. Ben oui, parce que quand on m'a opéré tout ça, les Allemands, je croyais qu'ils me soignaient. Alors ils me donnaient des piqûres, tout ça, mais on peut dire, à mon avis, c'était des somnifères, des choses qui nous faisaient changer. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous dire, c'était une autre forme de faire les camps de Buchenwald, mais encore inhumain. Vous voyez, c'était horrible. Mais vous savez, je disais, bon, ils sont chics, les Allemands, je ne comprenais pas, sortir d'un camp disciplinaire. Vous passez des examens médicaux et tout d'un coup, vous trouvez bien mangé, bien traité. Et il y avait un copain catalan qui avait été infirmier, il avait fait des études de médecine, il m'a dit, tu sais, il ne nous soigne pas, il profite de nous, ils font des essais. Et moi, je ne voulais pas le croire. Lui, il était convaincu de le premier. Moi, je ne voulais pas le croire. Je ne voulais pas croire qu'un homme puisse faire ça à d'autres hommes. C'est peut-être que je suis plus innocent, mais je ne voulais pas le croire. Et finalement, je me suis rendu à l'évidence. Ah oui. Et on ne voulait pas le savoir, parce que d'ailleurs, le savoir à qui, comme il ne nous parlait jamais. Vous savez, nous... Après ça, on avait 3-4 jours de repos. Et il arrive un moment que il n'y a plus rien, vous savez, votre famille ne sait pas où elle est, vous êtes, ni Gilbert, rien, et puis vous dites, bon, qu'il fasse ce qu'il voudra, je m'en fous. Mais là vous dites qu'il arrive ce qu'il voudra. Me tuer, je n'ai pas le droit, je vais vivre, je vais voir comment ça va se terminer.
Mais je travaillais à moins 15, et la fois moins 20 dans la carrière. Mais j'avais déjà fait un an et demi prisonnier de guerre. À l'estalage, on passait pas tellement de froid. Parce qu'il y avait du charbon, il y avait du bois, il y avait de tout. On pouvait s'échauffer. Mais là, il n'y avait rien. Les fenêtres toutes ouvertes, d'un côté comme de l'autre. Il y avait un courant d'air. Il fallait qu'on crève de maladie, là. De bon refroidissement, avec des mal de la poitrine, mais que plus que ça. Alors, ça a été affreux. Et alors, ensuite, à la carrière, à casser des cailloux. Ceux qui étaient de métier, on leur donnait un marteau au piqueur, qui marchait avec un compresseur. Alors ça, mais les autres, avec un maillet, taper sur la pierre, etc. Et quand on s'y attendait le moine, alors on se faisait taper par les capots, par les SS, qui venaient par là, et ça leur faisait plaisir. Et eux, ils étaient les maîtres. Ils avaient les esclaves là, pour les exploiter et pour les tuer. Ah, ces années de la carrière, ça a été terrible. Terrible.
Et surtout, c'est que c'était le fait d'être républicain espagnol. Ça, c'était même à ma taille, c'était quand même quelque chose. Pas seulement une responsabilité politique, que nous la voyons, mais c'était une responsabilité morale, d'homme, humaine. Et ça, c'était déjà plus difficile. Et par exemple, donner un coup de pied à notre prisonnier, ça, bon, ça c'était normal dans le camp. Eh bien, si c'était un Polac, ou si c'était un Allemand, ou un Allemand antifasciste, là, de ceux qui étaient là, ou un Français ou autre, qui donnait le coup de pied à notre prisonnier de notre pays, c'était normal, ça c'était ça. Mais alors, malheur, si tu étais en République espagnole, si tu donnais un coup de pied à un Russe ou à un Polac, alors là c'était le désastre. Parce que c'était le fait d'être ça, d'être catalogué en République espagnole, il fallait que ça ait une conduite exemplaire.
Dans le camp de Dachau, Je m'en suis sorti grâce au gars des brigades internationales. Parce que ce soit d'échec des Autrichiens, que c'est avec ceux que j'ai eu le davantage de contact, ou avec les Français, parce que ça, il faut brigades internationales, c'est tous des frères, ils m'ont aidé énormément. À un moment donné, j'étais dans un commando, dans un terrain d'aviation, allemand, hein. Et j'étais dans un commando là, et j'étais blessé à la jambe. Et ils m'ont rentré au camp, mais partout, les gars de brigade, ils m'ont aidé comme il fallait. Comme il fallait, bon. En sortant de l'hôpital d'Achaux, déjà l'organisation communiste de d'Achaux, le comité national, m'a trouvé une planque pour un travail de rien du tout, un capot. C'était un de brigade aussi qui m'a posé la bouffe supplémentaire. Enfin, je suis très bien. Si je suis de retour, là, c'est grâce au, je peux le dire, aux gars de brigade, parce que les gars de brigade, ils étaient organisés de telle façon qu'ils avaient pris un camarade de Marseille qui l'avait avec eux dans un commando à l'extérieur du camp, et que chaque fois qu'il y avait un arrivage, il l'envoyait là-bas pour savoir les Espagnols qu'il y avait et tout. C'est très bien, c'est magnifique, je ne peux pas dire.
Nous avons créé le premier comité international, c'est nous, les Espagnols, ça c'est à partir de 41 déjà. Ça, au début, ça ne servait à rien, mais ça servait déjà à une chose. Chaque Espagnol, il savait déjà qu'il y avait un comité international de créer, qu'il y avait des compagnons qui continuaient la lutte qu'on avait commencé en Espagne d'une autre manière. Et ça, à lui-même, à moi ça m'est arrivé, comme à Rassola, aux autres camarades, qui nous a confié des tâches les plus difficiles, c'était diriger ça. Mais justement, moi, quand j'ai ruminé, puis j'ai pensé dans la nuit des fois, à ne pas pouvoir dormir, et j'ai pensé le cas d'un ou deux, que je savais que le lendemain, ils allaient mourir, parce que ça, ils allaient... Et voir jusqu'où on pouvait aller pour essayer de les sauver là-dedans. Alors, quand on réussissait et qu'on prenait le devant au SES, et bon, c'était déjà une victoire formidable. Ça, c'était, pour nous, c'était un devoir. Et c'était notre devoir. Eh bien, c'était ça, c'était montrer qu'aucune idée politique différente et tout, du moment qu'il s'agissait de faire quelque chose pour sauver des compagnons et pour lutter contre les nazis, eh bien, nous étions là, nous étions les premiers. On nous a considérés comme les premiers, mais ça, évidemment, c'était un peu logique aussi, c'est pas par vantardise, mais c'était que nous venions d'Espagne, nous étions en Espagne, et après, c'était en France, mais ça a été pareil à l'armée française. Mais nous, pourquoi nous étions en France? Parce que nous avons perdu la guerre. Mais nous avons combattu jusqu'au dernier moment, jusqu'à passer la frontière, nous avons combattu avec les armes. Quand nous avons passé la frontière, que c'était fini notre guerre là-bas, mais pour nous, la guerre contre Franco continuait. Pas de la même manière, d'une autre manière. Eh bien, ça, nous l'avons tenu compte de cette situation à tout moment. Là, comment vous dire? Un exemple. Par exemple, comme nous, on a refusé de sortir dans les compagnies, la Légion étrangère, et le bataillon de marche, enfin, des trucs comme ça. Nous, on a dénoncé ça, et ben, nous avons réussi jusqu'à où on a pu aller. Mais quand nous avons réussi, que les premiers temps, il y en a qui seront engagés, croyant sauver la peau tout de suite, et en réalité, ça, c'était des esclaves, et en pensant, non pas en nous traitant comme un ex-combattant de l'Espagne républicaine, non, comme un Espagnol n'importe qui est incapable de réfléchir même. Eh bien, c'était que dans notre esprit, je crois que ça fait beaucoup l'organisation déjà. Parce que anarchistes, socialistes et tout ça, en Espagne, ils savaient déjà quel était son devoir. Eh bien, c'est continuer ça. Continuer ça, mais multiplier par 10 si c'était possible, pour éviter que des moments difficiles. Eh bien, à ma attention, c'était ça surtout. J'étais pensé que des fois, l'intervention à nous, et des fois, recevoir les coups de trique à la place d'un Belge, par exemple, ben, il fallait les faire. Ben, mais nous, il fallait les faire, ça. Il fallait les faire pour montrer que la solidarité est une des principales armes que nous possédions à Mauthausen. Si tu veux, c'est pour la mémoire. Moi, non, 2000, 3000, 4000 morts plus, sûrement, qui sont restés à Mauthausen, cela, il m'impose de que tant que j'aurai les forces, pouvoir dénoncer les crimes qu'ils ont commis contre les antifascistes. Mais nous, en tant que républicains espagnols, plus que personne, parce que nous, c'est avant les juifs et avant tout le monde. Hein. N'oubliez pas que. Nous, les premiers Espagnols qui arrivent à Mauthausen, ils arrivent le 10 août 1940. Et c'est que la guerre vient d'être finie, ça fait un mois que Pétain a capitulé. Et parmi, sans doute, les choses qui donnent déjà, les gages qui donnent à Hitler, c'est déjà que tous les républicains espagnols qui sont engagés dans l'armée française, ils sont mis entre les mains des Allemands. Et c'est ça qu'il faut tenir compte. Et c'est ça qu'on oublie beaucoup. Et des fois, une des choses qui me met en rogne, c'est ça. Parce que maintenant, les journaux, les radios, les télévisions, et ainsi, moi, parlez-moi des républicains espagnols. Ne me parlez pas de ce qui s'est passé ou non. Je pense à nos morts qu'il y a eu pendant la guerre, pendant Mauthausen, et tout le temps. Et après, les conséquences de Mauthausen, tous ceux qui sont morts, parce que je suis un des rares déjà vivants à l'heure actuelle. Mais je considère que c'est un devoir pour moi de me le faire savoir, que c'était ça, c'est républicain. Et que je mourrais comme ça.
On fait un concours scolaire de tous les ans. Et je leur explique qu'est-ce que c'est, comment conviver en déportation. Et les gars, ils sont contents. Les enfants, ils ne savent pas. Enfin, c'est des troisièmes de terminale. Hein. Tu leur expliques, mais pas pour te donner. Qu'on te mette des médailles, non. Pour leur expliquer là. Fantastique. Moi, j'ai une bonne opinion. Maintenant, je comprends que quand il y a des camarades qui vont là-bas pour expliquer les médailles qu'ils ont gagnées, alors là, zéro. Hein. Parce que. Je ne suis pas de cela. Pas de médaille. Ça sera peut-être plus dur quand on ne sera pas là. C'est possible. Et maintenant, peut-être ça commence à se sentir. Parce que on n'est pas beaucoup. Hein. Et voilà. C'est pas... Et maintenant, il y a tout un tas de gars qui sont morts. Hein. Seulement, voilà, la mémoire, il faut continuer. Et laisser quelque chose. Et ce sera pénible, mais il faut le faire. Voilà.
Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon, témoignage d'exil de trois générations. Avec Mariano Constante, Martial Mayans, Arthur Kerry, Escorriguel et Ramon Buge. Témoignage recueilli par Julieta Urigna, Marianic Bello, Emmanuel Plaza. Musique originale Guillaume Séguron. Un documentaire d'Albert Nouguet, Radio Arels. Mémoire des républicains espagnols, témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon et la région Languedoc-Roussillon, Direction de la culture et du patrimoine.